Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama.
Oui, Cinérama. J'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission aujourd'hui avec des films qui sont dans les salles depuis le 14 février. Et puis toi, Guillaume, tu vas parler d'un film qui a bien fonctionné puisqu'il a remporté l'Ours d'argent au Festival de Berlin.
C'est ça, il fait le buzz qu'on pourrait dire, hein. C'est 20 000 espèces d'abeilles.
Quant à toi, Sophia, c'est un documentaire.
Et oui, Yamina Zouta s'intéresse au sang dans Chienne de Rouge.
Et c'est dans beaucoup moins de salles en France. Et toi, Manu, alors un film turc.
Un thriller rural turc qui s'appelle donc Nuit noire en Anatolie.
Quant à moi, je vous parlerai du film d'Olivier Py, Molière imaginaire, et ça donnera l'occasion, ce film, autour des dernières heures de vie de Molière, eh bien, de jouer un blind test qui concernera les biopics. Alors pas n'importe quel biopic, les biopics qui sont sortis en 2023. Voilà, c'est histoire vraiment de resserrer et que ce soit peut-être un peu plus facile à voir. Donc ce sera dans le cours de cette émission. Mais nous commençons avec 20 000 espèces d'abeilles, la difficulté d'être soi dans la ruche du monde, ai-je lu dans la presse. C'est l'Ours d'argent au Festival de Berlin.
Pardonnez-moi, mais la situation est très délicate.
Cinérama.
Ce film est une catastrophe.
Alors, des mois après la récompense du public à Midi Libre au Cinéma 2023, où des spectateurs français avaient pu le découvrir en très très grande avant-première, et bien donc 20 000 espèces d'abeilles arrivent chez nous, toutes auréolées, et bien entre autres de trois prix prestigieux à la cérémonie espagnole des Goya. Le film y a remporté le trophée de la nouvelle meilleure réalisatrice, du meilleur second rôle et du meilleur scénario original sur un total impressionnant de 15 nominations, ai-je lu. Donc pas mal pour un premier film, celui de la réalisatrice Estibaliz Urresola Solaguren, dernière représentante en date donc d'une nouvelle vague espagnole et basque de jeunes femmes désireuses d'imprimer le cinéma ibérique d'une patte résolument féminine, féministe et au regard frais sur des thématiques de société, que ça soit donc sur le travail, la famille ou encore la découverte de soi. Alors, découverte de soi, ben, qui est justement totalement au cœur de ces 20 000 espèces d'abeilles.
Te estás separando. Está muy hermosa, guapísima.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que la réalisatrice n'a pas choisi le chemin de la facilité pour son premier film. Alors si le titre nous envoie vers l'idée que nous allons assister à un documentaire animalier, voire un film familial en milieu naturel, il n'en est en fait pas grand-chose, en tout cas de traditionnel. Puisque 20 000 espèces d'abeilles s'intéressent au parcours de Coco, une petite fille de 8 ans qui ne sait pas trop ce qu'elle est. Alors le problème, qui sera en fait plus qu'un détail révélateur, c'est que les femmes auprès d'elle et auprès de qui elle se confie ne sont pas forcément mieux placées qu'elle pour l'aider à se définir. Alors le temps d'un été, qu'elle passe non loin des ruches au Pays Basque, elle va comprendre qu'aujourd'hui en particulier, il n'y a pas un modèle type de personne et que s'il existe 20 000 espèces d'abeilles différentes, elle pourra se trouver un jour une identité qui lui sciera et qu'elle finira par trouver sa place. Alors la métaphore de l'apiculture est bien évidemment prolixe à développer le sujet épineux couvert par la réalisatrice, car dans une ruche, chaque abeille remplit un rôle distinct et nécessaire au fonctionnement du groupe, tout en constituant un organisme vivant interconnecté. Alors Solaguren s'appuie là-dessus pour évoquer les relations familiales telles qu'elles sont représentées dans le film, en ayant déclaré que, donc je cite, « dans une ruche, les abeilles sont interdépendantes, mais qu'en même temps, chacune y joue un rôle spécifique ». Alors d'une certaine façon, comme les vaches en Inde, les abeilles représentent quelque chose de plutôt sacré dans la culture traditionnelle basque, et c'est justement pour démonter ce qui a été sacralisé dans la vision de la famille traditionnelle que Solaguren a épousé cette métaphore à plusieurs facettes.
Seco, eres médico.
Yo no. Ellas.
Car 20 Mamie l'espèce d'abeille qui parle, ben on l'aura très vite compris, de l'identité de genre hein, et d'une personne qui pense être née dans le mauvais corps, a comme point de départ donc un fait divers particulièrement triste. Alors je cite là encore une fois la réalisatrice. En 2018, au Pays Basque, un jeune garçon trans de 16 ans s'est suicidé et cela a eu un impact énorme sur toute la société basque. Cela a été un moment de réveil parce que personne n'évoquait les enfants ou les ados transgenres. Personne ne concevait même que cela existe. Il a laissé une lettre d'adieu qui expliquait qu'il se suicidait pour apporter de la visibilité aux personnes et aux enfants dans sa situation. Des familles témoignant à la télévision partageaient leur expérience, c'était vraiment le début de quelque chose. Alors voilà, mais qui dit métaphore du sujet ne dit pas forcément que la forme sera elle aussi sujette à un traitement sur plusieurs couches, surtout quand le sujet est aussi grave. Alors le grand problème de 20 000 espèces d'abeilles, c'est que pour un film sur l'identité, ben, il en manque cruellement de, justement, et aussi de personnalité. Ben, à l'inverse de Tomboy de Céline Sciamma ou encore Girl de Lucas Dont sur le même sujet qu'on avait pu apprécier il n'y a pas si longtemps. Donc le choix d'une esthétique ultra naturaliste fatigue par la laideur et l'anonymat des cadrages qui sont souvent aussi hasardeux que les acteurs en partie non professionnels du film. Alors de même, l'histoire se cherche autant que les personnages et ne parvient à véritablement se mettre sur les rails que dans sa dernière demi-heure sur plus de 2 heures de métrage. Alors voilà, c'est pas sûr que 20 000 espèces d'abeilles soit la programmation la plus recommandée pour la Saint-Valentin, mais ce qui est sûr, c'est que le bourdonnement de ces abeilles ne vous laissera pas indifférent, que ça soit en bien ou en mal.
20 000 espèces d'abeilles est en salle depuis le 14 février. Il retourne dans son village natal, mais est alors confronté à l'hostilité de tous. Mon Dieu, c'est Nuit Noire en Anatolie.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
This is Cinerama.
C'est vrai, oui ou non ?
Nuit Noire en Anatolie appartient à cette nouvelle vague de cinéma turc, très présente sur Netflix, avec des œuvres comme 10 jours du côté du bien ou à la gorge, qui aspire à une reconnaissance plus large, transgressant, on va dire, la radicalité du cinéma de Nuri Bilge Ceylan, qui est un peu la star en Turquie, en allant greffer sur des sujets difficiles une construction digne des meilleurs polars occidentaux. Alors, à l'instar de l'excellent Burning Days, d'Emin Alper, sorti l'an dernier, le film d'Oskan Alper, c'est un patronyme, ils ont le même nom, mais ils sont pas de la même famille, déroule son histoire glaçante dans une ambiance de fin du monde, d'une noirceur absolue. Si vous espérez ne serait-ce qu'une éclaircie autre que la lumière irradiante sublimant les magnifiques paysages de l'Anatolie, alors passez votre chemin. La nature, aussi majestueuse soit-elle, se révèle inquiétante, cachant bien des secrets au cœur de ces forêts qui surplombent les personnages. Donc après 7 ans d'absence, Ishak, joueur de luth dans une boîte de nuit, revient dans son village natal dans la province d'Anatolie pour se rendre au chevet de sa mère malade. Celle-ci décède peu de temps après son arrivée, alors son retour n'est pas perçu avec bienveillance par les habitants du village, affichant clairement une hostilité envers cet homme tourmenté. Pourtant, il décide de rester bien déterminé à régler des comptes avec son passé, à déterrer un événement qui hante encore les habitants de ce village. Le pessimisme radical et résolument, enfin, et sincère du film s'accompagne d'une réflexion lucide sur une contrée plus nationaliste que jamais, xénophobe et raciste, sans parler bien sûr d'homophobie. Nuit Noire en Anatolie, qui démarre à la manière d'ailleurs de certaines œuvres phares de Ceylan, comme Le Poirier Sauvage, prend des allures de western âpre et cruel, dont la seule issue n'est qu'un gouffre, au sens propre comme au figuré, qui n'offre aucune échappatoire possible. Alors dans cette perspective, les qualités évidentes de ce drame rural sont aussi ses limites, son jusqu'au boutisme marqué par un attrait pour les ténèbres et une absence de respiration, alors soit une pointe de transgression par l'humour ou la tendresse, finissent par laisser apparaître les rouages d'une progression artificielle de l'intrigue. En effet, les ruptures de ton, même dans un cadre très sombre, apportent, on va dire, une crédibilité et une authenticité proche d'une certaine idée naturelle du réalisme. La vie réserve des surprises, de l'inattendu, y compris dans les moments les plus durs. Les sourires sont jamais exclus de la tragédie. Alors pas chez Oskan Alper, où tout le monde affiche une mine d'enterrement de la première à la dernière image, alors dégageant une atmosphère asphyxiante, d'une efficacité redoutable d'un point de vue immersif, mais qui, revers de la médaille, installe aussi un récit verrouillé, aux propos alors non dénués de didactisme, dans sa volonté d'alerter les citoyens sur la situation de la Turquie contemporaine. « Bon, rien que la bande-son, on sait qu'on n'assiste pas à une comédie. Hein. Ça, c'est... Donc, les intentions du réalisateur sont claires, hein, comme il le souligne dans le dossier de presse. Hein, comment les désirs réprimés par la société, la sexualité non exprimée, peuvent créer un climat de peur et de violence. Voilà, ce manque de subtilité hein, est heureusement compensé par la puissance d'une histoire qui rappelle vaguement celle d'Un homme est passé de John Sturges, à la différence que Spencer Tracy n'avait rien à se faire pardonner, mais atterrissait dans une petite bourgade pour mettre en lumière la mauvaise conscience d'une population présumée coupable d'homicide. Ishak, lui, est un personnage torturé, hein, tout autant ou presque coupable que les autres, à la différence qu'il n'a pas oublié. En dire davantage serait dévoiler le nœud d'une intrigue bien construite, alternant le présent avec des flashbacks éclairants, prenant le pouls d'un système gangréné par la corruption et le mensonge. Alors, dépassant le simple cadre géographique de la Turquie, le réalisateur raconte finalement une histoire universelle qui pourrait se dérouler aussi bien au fin fond du Texas que dans certaines régions reculées de France, où l'intolérance ne cesse de progresser. Alors, adoptant le point de vue de son protagoniste central, Nuit noire en Anatolie, bénéficie d'une mise en scène tendue, soutenu par un très bon montage. Le portrait des antagonistes frise certes la caricature, mais procure un saisissant effet gueule de bois qui apporte toute sa saveur à ce thriller politique qui ne cherche jamais à excuser les individus. Donc le film est un voyage terrifiant dans les recoins les plus obscurs de l'âme humaine, réquisitoire âpre et sans illusion de la responsabilité collective d'une poignée d'hommes violents et ignorants.
Nous parlions de Nuit noire en Anatolie, film turc en salle depuis le 14 février. Et cette fois-ci, eh bien, nous allons parler d'un film français, il est d'Olivier Py. Comme tous les soirs, Molière monte sur la scène du théâtre du Palais Royal pour jouer le malade imaginaire. Ce sera sa dernière représentation.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique. Cinérama.
Molière, il faudrait reprendre.
Place au théâtre !
Alors, si je vous dis le malade imaginaire, vous me dites...
Molière ?
Oui, voilà. Et si je vous dis donc le Molière imaginaire, vous me dites...
Malade ?
Non, Olivier Py, eh oui. C'est le titre du film qui est évidemment un jeu de mots, un clin d'œil à une pièce de Jean-Baptiste Poquelin pour parler du dramaturge et comédien, précisément donc quand il joue la pièce du malade imaginaire pour la dernière fois, puisqu'il va mourir à l'issue de la représentation et non pas au moment de la représentation, comme certains veulent nous le faire croire. Alors, étrange qu'Olivier Py s'empare d'un tel monument du théâtre. Alors certes, il s'agit de l'ancien directeur du Festival d'Avignon et de l'actuel directeur du Théâtre Châtelet, mais jamais il n'a mis en scène Molière. Un de ses derniers spectacles concerne Shakespeare. Alors, ce qui préside à l'idée de ce film pour le metteur en scène, c'est l'idée d'abord de filmer les dernières heures de quelqu'un et l'envie de filmer les coulisses d'un spectacle. Mais attention, le titre a son importance. Il s'agit ici d'un récit imaginaire. Il n'y a pas beaucoup de documents, d'ailleurs, évoquant la mort de Molière. Mais ça n'a en rien dérangé Olivier Py, qui a pris le parti de la fantaisie et de la démesure.
Nous perdons des sommes considérables avec cette nouvelle pièce. Il faudrait reprendre Nicomède.
Je n'ai pas de talent pour la tragédie.
Un bouffon reste un bouffon.
Un bouffon peut-être, mais je joue pour le roi.
On dit que c'est Corneille qui a écrit le Tartuffe. Il n'aurait pas osé le signer.
Alors, des mesures, oui, elle est avant tout formelle. Il s'agit de vivre les derniers instants du dramaturge et acteur. Nous sommes alors placés dans un théâtre, celui du Palais Royal, le 17 février 1673. Et nous n'en sortirons que pour aller dans une tombe. Le parti pris d'Olivier Py est de privilégier le plan séquence, alors faux plan séquence, mais tout de même, la caméra suit les personnages, passe les portes, les trappes, les murs, les rideaux, et ne cesse de montrer son ampleur, pouvant s'approcher des corps, comme faire voir le public, en le surplombant. Un plan séquence est particulièrement difficile à vivre, c'est celui où le metteur en scène panote sur le public qui ne cesse de rire à des textes qui nous sont parfaitement inaudibles. Ce public, on en a fait connaissance. La caméra s'est attardée dans les loges au début du film, auprès de vieilles pies qui dénigrent Molière, savourant que le roi préfère maintenant Lully à Molière, et espère surtout voir la Montespan, d'un religieux qui dédaigne la comédie, de deux aristocrates qui savent que les pièces se moquent d'eux. Tous ces gens sont emperruqués, fardés jusqu'au grotesque pour nous, spectateurs du XXIe siècle. Mais au-delà de ce public bruyant qui braille, s'embrasse ou se dispute, il y a Molière et sa troupe.
Tu es sûr de pouvoir continuer ?
Il faut continuer. Il y a ici 50 personnes qui n'auraient rien à manger.
Le roi va venir, Jean-Baptiste. Votre corps est épuisé.
Je sens de temps en temps des douleurs de tête.
Justement !
Le poumon !
Pour être enterré en chrétien, il faudrait qu'il écrive vite une lettre de renonciation à son métier.
Je ne suis pas au service de l'Église, je suis au service du roi.
Si tu ne saignes pas, on va te jeter en pleine nuit dans la fosse commune.
C'est plutôt du côté de la troupe que le film quitte la surface, ce qui nous est déjà connu hein, finalement, pour nous faire partager la vie donc, d'une troupe avec ses amours, ses trahisons, ses rancœurs, ses espoirs et sa crainte de voir disparaître Molière. Même si chacun sait que sa mort est inéluctable, cela donne des allers-retours. Alors entre la vie et le trépas, après tout, il le dit lui-même, Molière, il joue le mort mais pourrait bien mourir là maintenant. Alors il s'en faut de peu pour qu'il ne puisse plus dire son texte. Cette frontière indicible entre la vie et le jeu, la vérité et la fiction, Olivier Py en joue et fait balancer cette réplique, la vie c'est le théâtre. Le théâtre, c'est la vie. Voilà. Et c'est une phrase qui, moi, me fait penser alors, au cas de Benoît Jacquot, admirablement exposé dans un article du Monde paru il y a seulement quelques jours, où le réalisateur ne dissocie plus ce qu'il fait subir à ses actrices mineures de sa vie sentimentale. Le cinéma, c'est aussi la vie pour Benoît Jacquot, mais on voit quel dégât cela fait.
La troupe va se déchirer sans lui.
La troupe existait avant lui.
Le roi, toujours pas.
S'il meurt, tout est fini et tout commencerait pour d'autres.
Le roi m'a trahi. L'Église m'a trahi.
Vous m'avez tous trahi.
Je vais tâcher de ne pas rater mon entrée. Ni ma sortie.
Il faudrait trouver un nouveau nom qui convienne à tous. La comédie française.
Ça ne marchera jamais.
Eh oui, un peu d'humour. Des phrases, il y en a beaucoup hein, dans ce Molière imaginaire d'Olivier Py, qui est une fable baroque sur le théâtre, non sans intérêt, mais avec tout de même un gros défaut, le choix de cette forme du plan séquence avec cette caméra baladeuse qui ne semble jamais s'arrêter, comme un caillot de sang d'ailleurs qui nous emmènerait jusqu'à l'occlusion finale, la tombe de Molière, ou plus exactement son cercueil jeté dans la fosse commune. Alors tout a été éclairé à la bougie, mais la comparaison avec Kubrick s'arrête là, le réalisateur américain n'aurait jamais usé d'une forme aussi triviale. Laurent Lafitte en Molière est impeccable, comme bon nombre d'acteurs autour de lui, dont certains ou certaines vont jusqu'au cabotinage, mais c'est là la demesure de ce projet qui pourra ravir tous ceux qui apprécient Molière. Les autres pourraient peut-être s'y perdre. Ce Molière imaginaire est en salle depuis le 14 février. Il nous donne l'occasion de jouer un blind test autour des biopics. Alors, pas n'importe lesquels, ce sont des biopics qui sont sortis en 2023. Le cinéma en charrie beaucoup, Manu. Hein. T'as l'impression d'être pas étonné.
J'en ai parlé la semaine dernière quand j'en ai fait Audi versus Lancia. Il y a une pléthore de biopics, que ce soit des chanteurs ou maintenant beaucoup de, sur le sport. C'est la mode, c'est incroyable.
Et puis, même pour revenir à la voiture, je crois qu'il y avait le biopic sur Lamborghini qui est donc sorti en 2023, me semble-t-il. Mais il n'est pas dans ce blind test. Alors, nous allons commencer avec le premier extrait.
J'en ai assez de cette espèce d'asile de dingue. On peut pas travailler dans ces conditions, puisque c'est comme ça. Généralissimo, je prends la porte. Merci pour rien.
Bon débarras. Vous ne craignez pas qu'il soit bavard dehors. On le fera tuer. Allons, je blaguais. Non, il me déteste moi, pas l'Amérique.
Mon général, tout le monde ne prête pas le flanc comme moi.
Je ne suis pas sûr d'avoir saisi.
Vous ne m'avez pas engagé en dépit de mon passé de gauche, mais en raison même de celui-ci.
Pour garder le contrôle sur moi. Oh, je suis moins subtil que vous croyez. Je ne suis qu'un humble soldat.
Vous n'êtes ni humble ni simple soldat. Vous avez étudié l'ingénierie au MIT.
Je l'avoue volontiers.
Maintenant qu'on se comprend, vous pourriez peut-être m'obtenir mon habilitation, histoire que je puisse vous accomplir ce miracle.
Alors, ça a été trouvé.
C'est Oppenheimer.
Oui, ce film méconnu de Christopher Nolan, c'est évidemment l'un des succès de 2023. Christopher Nolan a fragmenté son récit en trois parties pour raconter le chemin accompli par le père de la bombe atomique. 4,4 millions d'entrées en France pour ce film.
Je tiens à vous dire que votre jeu est fantastique.
Inutile de traduire, merci.
J'ai un tas de questions à vous poser, mais d'abord, je veux que vous sachiez que lorsque j'aurai dissipé ce malentendu et obtenu les droits pour la version de poche, je ferai de vous un millionnaire.
Monsieur Rogers.
S'il vous plaît, appelez-moi Hank.
Monsieur Rogers, je n'ai pas le droit de recevoir d'argent pour mon jeu.
Eh bien ça, c'est criminel.
Non. C'est le communisme.
Alors, cette phrase sur le communisme... Alors, c'est un film que tu avais chroniqué, Guillaume.
Léonard Bernstein, Maestro ?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout ?
Non, 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 il est question d'un jeu, très populaire, là, pour le coup, qui a été programmé par un soviétique et qui a été récupérée.
C'est Tetris.
Oui.
Je l'avais oublié. Pourtant sympa. Mais voilà, un exemple type de film qu'on passe un bon moment devant. Mais un peu de temps après,
ça laisse une trace.
Ouais, c'est fou.
C'est pas mauvais.
Hein.
Alors, moi, j'avais oublié que c'était sorti en 2023. Mais c'est un film que j'avais beaucoup apprécié. Film inspiré donc d'une histoire vraie. Donc, celle de Tetris et d'un Américain qui a tout fait pour faire connaître le jeu, créé donc par un Soviétique. Et c'est un film qui vire peu à peu au thriller. Ce film n'a pas été diffusé dans les salles de cinéma, mais a été diffusé sur Apple TV+.
Peut-être ça, peut-être la preuve que les films sur plateforme, au final, laissent un peu moins de traces.
Ah, c'est possible. Allez, troisième extrait de ce blind test concernant les biopics sortis en 2023.
J'aurais dû insister pour que le président vous écoute.
Oh Bernard, c'est pas la peine. Mon mari ne me prendra jamais au sérieux. Vous savez ce qu'il m'a dit un jour ? Vous ratez tout, il veut tout rater aux autres.
Eh bien, moi, ma mère m'a dit un jour, la seule chose pour laquelle tu es doué, Bernard, c'est l'échec.
Mais c'est charmant, votre mère.
Je venais de rater l'ENA pour la troisième fois. Moi qui rêvais d'être préfet. Et vous savez quoi ? Aujourd'hui, elle n'arrive pas à croire que j'ai un bureau à l'Élysée.
Alors, il n'y a que moi qui l'ai vu autour de cette table, mais c'est trouvé.
C'est Bernadette.
Oui, film de Léa Doménac avec Catherine Deneuve, Denis Podalydès, que nous entendons. Une fois que son mari est président, Bernadette Chirac est mise de côté car jugée trop ringarde. Elle décide alors de prendre sa revanche en devenant une figure médiatique incontournable. Un film qui la rendrait presque féministe. C'est un peu le problème de ce film. 800 000 entrées en France. Quatrième extrait de ce blind test.
Qu'une bande de petites merdeuses auto-centrées. J'ai jamais vu ça! Après, on va encore dire, oui, les filles, c'est plus compliqué que les mecs. Toujours des histoires de crépage de chignon. Eux, au moins, ils savent dépasser leur rivalité sur le terrain. Ça, la presse va pas nous louper. Vous êtes prêtes à sacrifier votre euro? Mais vous êtes cinglés ou quoi? Vous deux, là. Titi et Nanou. C'est terminé. Le prochain match... Vous le regarderez depuis les gradins.
Alors, ça a été trouvé.
C'est Marinette.
Oui, de Virginie Verrier, menant de front des petits boulots et une carrière sportive, Marinette Pichon est sélectionnée en équipe de France, puis repérée par un grand club américain. Elle embarque alors sa mère, confrontée à un mari violent. Aux États-Unis, seulement 26 000 entrées en France. Donc, voilà, peu de personnes l'ont vu, mais toi, tu l'as vu.
Oui, oui. C'était plutôt sympa, d'ailleurs.
Oui, mais je pense qu'il
voilà, si on aime un très peu le critique quand même. Mmh.
Alors, dernier extrait de ce blind test consacré au biopic de 2023.
Combien ce truc de montage coûte ?
C'est une Mansfield, 8 mm.
Combien
pour le montage ? $80.
Nom d'un chien, Samy ! Une centaine de dollars pour un hobby !
C'est loin d'être un hobby.
Si tu consacrais autant de temps à l'algèbre,
l'algèbre
que tu fais pour tes
je
films...
Je déteste l'algèbre, pourquoi tu... C'est complètement inutile.
Si tu veux fabriquer quelque chose, c'est pas inutile. Enfin, Samy, écoute, quand j'étais petit, j'étais toujours là à me dire quelqu'un a trouvé comment faire ça. Cette voiture, et ce miroir, puis ces feux clignotants.
Moi, c'est des films que je veux faire.
Moi, je te parle de choses réelles. Et non, imaginaires.
Alors, ça a été trouvé, même si la VF vous a posé quelques difficultés.
Ah bah, elle est abominable.
Ah oui, mais bon. Fait avec ce qu'on a.
The Fableman.
Oui. Oui, de Steven Spielberg, qui nous plonge dans l'histoire familiale du cinéaste, qui a façonné sa vie personnelle et professionnelle. Un très très grand film, avec seulement 367 000 entrées en France.
Mais pour le coup, un biopic, pas vraiment. C'est plus une version très romancée.
Oui, mais c'est quand même son... On est d'accord que c'est un peu son histoire. Enfin, donc,
oui, on est d'accord. Mais pour le coup, contrairement aux autres films là, dont tu as fait la liste, là, c'est vraiment, il y a vraiment une petite distance hein, qui est faite par l'auteur,
oui.
Par l'auteur
oui,
lui-même.
Oui, oui. Mais
salutaire, d'ailleurs.
On aurait pu mettre plein d'autres biopics qui prennent de la distance, et finalement, ça peut être aussi bien.
Dali prend un peu de distance aussi.
Oui, de toute façon.
Il paraît.
Nous refermons donc ce blind test. Sans des femmes, attentats, procès, greffes, dons et essence de vie, nous parlons de Chienne Rouge.
J'entends beaucoup parler de votre travail.
Cinérama.
On s'en passera aisément.
Je me suis réveillée un matin avec ce désir. Filmer du sang.
Tu fais quoi là ?
Moi, je vais commencer à filmer.
Ah !
Et si on emmenait son Valentin ou sa Valentine se délecter du documentaire de Yamina Zouta et ses visuels et conceptuels audacieux, 50 nuances de rouge déclinées à l'écran où sont troqués les habituels oripeaux de la fête des amoureux contre une proposition un brin moins glam et aphrodisiaque peut-être que les convenus mon chéri, rose rouge d'usage, porte-jartel pourpre et autres rouges à lèvres écarlates. Et pourtant, cette rose rouge aurait été créée, si l'on en croit la mythologie grecque, à partir du sang d'Adonis, l'amant humain de la déesse Aphrodite. Mais voilà, un plan fixe sur une cuvette de toilette où coule du sang menstruel cadré d'un côté par une cuisse à la peau flasque et capitonnée et de l'autre par quelques denses poils pubiens n'est peut-être pas la meilleure mise en jambe pour une soirée romantique. Je rappelle toutefois qu'il est toujours possible de fermer les yeux devant un écran de projection, et fermer les yeux est parfois nécessaire, même pour les spectateurs les plus aguerris, devant la multitude de scènes crues, sans phare, qui jonchent l'œuvre sanguinolente de Yamina Zouta et où le fluide filmé nous repousse autant qu'il nous attire. Car oui, le sang est tabou dans notre société, certains sang plus que d'autres d'ailleurs, et généralement, même s'il est toujours là en souterrain, quand tout va bien, on ne le voit pas. Alors quand il se met à couler, tous nos sens sont en alerte. Instinctivement, on redevient des animaux. Et bien que la réalisatrice confesse l'avoir véritablement conscientisé durant son tournage, qui a duré 3 ans, ce n'est pas uniquement le caractère tabou, défendu et anxiogène qui l'a motivé à prendre la caméra.
On va faire des prises de sang et on va vérifier que 100% des cellules de votre frère soient dans votre organisme.
Tu dis que vous êtes sœur de sang ?
Oui. Oui, c'est ce que je ressens.
Journaliste de métier, Yamina Zouta travaille pendant 10 ans pour TF1, où elle est chroniqueuse judiciaire. De cette expérience, une frustration émerge lors de sa couverture du procès du sang contaminé par le VIH dans les années 90. Une injonction de la part de sa hiérarchie, « tu ne montreras pas de sang ». En réalisant Chienne de Rouge, Yamina Zouta prend sa revanche sur ce qui ne lui a pas été autorisé au moment de ce procès. Grâce à ce que permet notamment bien plus le genre documentaire que la forme journalistique, prendre le temps. Le temps d'une quête obsessionnelle pour la réalisatrice qui piste l'hémoglobine sous toutes ses formes, de l'intime à l'universel, telle une chienne de rouge, ses chiens de chasse dressés pour retrouver les proies blessées. La chasse au sang protéiforme de Yamina Zouta mêle images d'archives, prises de vue réelles et extraits de films, le Nosferatu de Murnau ou les Ailes du désir de Wenders notamment, dans une proposition formelle originale et ultra référencée. L'omniprésence d'une couleur, rouge, renvoie à la fraternité républicaine de Kieslowski, qui devient gémellité de chimère ici. Le montage symbolique et les apparitions en surimpression évoquent quant à eux l'expressionnisme allemand ou les premiers temps du cinéma de Méliès par exemple.
Anna a 28 ans. On la transfuse 13 fois. Une des poches de sang est contaminée.
Ça fait mal ?
Non. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau.
Au procès du sang contaminé, elle mêle aussi un deuxième fait de société majeure et traumatique, plus récent. C'est la seule occurrence dans le film d'ailleurs où l'on voit du faux sang à l'écran et la séquence s'avère presque plus horrifique que tous les photogrammes de vrai sang donnés à voir. Il s'agit d'une mise en scène d'étudiants de médecine qui s'entraînent à de futurs attentats. Tout y est très scénarisé et particulièrement glaçant dans ce qu'elle nous renvoie à la mémoire d'une blessure collective, celle du Bataclan en 2015, un Paris ensanglanté. La traque de Yamina Zouta repose également sur son histoire personnelle. Elle-même transfusée à la naissance, nous accompagne de sa voix-over dans un récit où cette matière biologique vitale dévoile son caractère essentiel et réparateur. Ce récit, elle le conjugue au pluriel et nous fait suivre à travers les artères de Paris plusieurs protagonistes qui ont tous un lien au sang et se posent la question de la transmission et de l'héritage. Un convoyeur, une greffeuse, une greffée ou chimère, et puis dans la forêt, une chienne de rouge, le relais symbolique de Yamina Zouta dans le film. Quête identitaire et réparation intime font miroir à celle de la réalisatrice dans un jeu de pistes rougeoyant d'humanisme symbolique. Ce que le sang révèle de blessures, il symbolise autant de renaissance, d'unité, mais aussi de diversité dans une ode au métissage. Quelques vers du poème « La fontaine de sang » de Baudelaire résument bien les dualités du film de Zouta. « Il me semble parfois que mon sang coule à flot, ainsi qu'une fontaine aux rythmiques sanglots. Je l'entends bien qui coule avec un long murmure, mais je me tâte en vain pour trouver la blessure. À travers la cité comme dans un champ clos, il s'en va, transformant les pavés en îlots, désaltérant la soif de chaque créature, et partout colorant en rouge la nature. » Vous pourrez vous susurrer la fin de ce poème issu des fleurs du mal après avoir vu Chienne de Rouge, pourquoi pas un bouquet de roses rouges à la main, en porte-jartelle pourpre avec du rouge à lèvres écarlate, et en vous goinfrant discrètement dans la salle de cinéma de mon chéri, si les hauts le cœur provoqués par le film vous le permettent. Et bonne Saint-Valentin à tous.
Merci Sophia. Et donc, on a eu de la poésie, on a eu Molière, donc du théâtre, dans une émission de cinéma.
Alors ?
C'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça. Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On revient évidemment la semaine prochaine. Vous aurez chacun un film, messieurs.
Oui, moi je vais vous amener dans les profondeurs de l'océan avec Le Royaume des Abysses.
Et toi, Manu ?
Moi, je vais vous parler d'un petit thriller coréen qui s'appelle Sleep.
Et puis nous parlerons aussi d'une BD autour de George Lucas et de la grande aventure de Star Wars. À la semaine prochaine.